Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour cette première émission qui marque le retour du pédalo, la quasi-quotidienne estivale du 103 FM. Comme vous avez pu l'entendre la semaine dernière, c'est en effet la fin de la saison pour Manon et Quentin, nos vaillants services civiques à la rédaction après 8 mois à vous présenter l'actualité locale à l'antenne et sur le terrain. Et c'est donc moi, Thibaut, qui vais prendre le relais pour les 2 mois à venir. Cette émission marque traditionnellement l'approche notamment de la saison des festivals, avec de nombreuses interviews de programmateurs qui nous racontent leur manière de travailler et leurs coups de cœur musicaux. Évidemment, au vu de la situation actuelle, cette année sera un peu particulière. J'en profite donc pour souhaiter bon courage à celles et ceux qui travaillent ou sont bénévoles au sein des festivals, des lieux de diffusion et dont l'activité est encore aujourd'hui incertaine. Nous nous efforcerons cependant de continuer à couvrir l'actualité locale et je profite de vous rappeler que si vous êtes à l'origine d'une initiative citoyenne, associative, culturelle ou sociale, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou notre site, nous reviendrons vers vous pour envisager d'en parler à l'antenne. La filière musicale, cependant, sera tout de même au cœur de l'émission ce soir, puisque j'ai pu m'entretenir avec Vianney Marzin, directeur du pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, avant de retrouver en fin d'émission Iris pour une chronique qui nous parlera des vacances. Alors que nous sommes à la veille de la deuxième phase du déconfinement et que certains secteurs s'apprêtent à rouvrir, comme l'hôtellerie-restauration, les équipements sportifs ou les musées, la situation est toujours floue pour certains, notamment pour les actrices et acteurs des musiques actuelles. Les salles de concert pourraient rouvrir mais dans des conditions qui ne leur permettent a priori pas d'être rentables, les festivals de moins de 5000 personnes pourraient se tenir mais dans des conditions encore vagues, et les intermittents du spectacle ont droit sous certaines conditions à un allongement de leurs droits, mais ils ne disposent pas non plus de vision au-delà du court terme. Pour discuter de tout ça, je suis en compagnie de Vianney Marzin, directeur du pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, un réseau de plus d'une centaine de structures à travers la région et dont le but est de travailler ensemble afin de développer la filière des musiques actuelles. Bonjour.
Bonjour.
Avant de revenir sur la situation actuelle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail les différentes missions du pôle et la manière dont vous fonctionnez ?
Alors le pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, c'est son nom complet, est un réseau de structures qui ont pour point commun d'avoir des activités dans le champ des musiques actuelles, soit de diffusion, donc l'organisation de concerts, donc c'est des festivals, des salles de concert, notamment des cafés culture aussi, ou alors de production, des collectifs d'artistes, des tourneurs, des labels, et puis des structures qui ont signé des activités auprès des musiciens amateurs ou professionnels, donc des studios de répétition, des structures d'accompagnement, des médias aussi, des structures de services administratifs, techniques, enfin toute la filière est réunie dans une seule association. Et cette association a des missions d'observation, des missions d'accompagnement, des missions d'information qui sont financées par l'État et la région à parité depuis sa création en 2008.
Et vous arrivez à dégager des problématiques communes qui peuvent rassembler des structures qui composent des champs aussi différents.
Notre objectif, c'est ça, c'est de faire en sorte que des gens qui ont des activités similaires, mais pas forcément les mêmes finalités ou les mêmes statuts, ou qui sont sur des territoires différents de la région, se parlent, se posent des questions ensemble, réunissent des moyens, mutualisent leur expertise, et puissent avancer dans leurs relations aussi, puisqu'ils sont certains clients les uns des autres, prestataires les uns des autres, ils ont parfois un peu de concurrence aussi les uns entre les autres, mais en même temps, le fait de se rencontrer, le fait de se parler, de se voir régulièrement au sein de groupes de travail ou lors de nos rencontres, leur permet de prendre de la hauteur et d'aborder normalement, en temps normal, les choses avec un peu plus de sérénité.
Est-ce que tu pourrais donner un exemple justement de projet, d'action sur lequel vous travaillez en temps normal, comme tu dis ?
Alors par exemple, on a une campagne des festivals de musiques actuelles qui a été initiée en Pays de la Loire, qui s'appelle la campagne « Ici c'est cool » contre les violences sexistes, racistes et homophobes, et qui a pris corps au sein d'un groupe de travail festival qui avait décidé de mener de front un combat contre toutes ces types de violences au sein d'un festival, mais même plus largement, en menant à la fois une campagne de communication, mais aussi de formation et puis d'information du public sur ces questions-là. Et ça, c'est un travail qui a été initié au sein du pôle.
Et donc, j'imagine qu'avec l'arrivée de l'épidémie et du confinement, vous avez dû changer à la fois votre manière de travailler et à la fois redéfinir les actions en cours.
Au moment de l'arrivée de l'épidémie en France et les premières annulations, les premières interdictions, notamment qui concernaient d'abord les lieux fermés, les grandes jauges, et puis après rapidement aussi les festivals les plus importants, et puis finalement assez vite aussi toute activité, on a en effet complètement revu notre façon de fonctionner. Déjà nous-mêmes on s'est mis à télétravailler, on a été obligé de mettre en place, de reproduire un petit peu nos groupes de travail mais en visioconférence, et puis surtout on s'est recentré sur la veille, la ressource, l'information, faire en sorte que nous on comprenne à peu près ce qui se passe et qu'est-ce qui pouvait être mis en place par nos adhérents, mais pas seulement nos adhérents d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais tous les gens qui agissent dans le champ de la musique en Pays de la Loire peuvent bénéficier de nos informations. On a tout recentré sur la veille, la compréhension de ce qui se déroulait, et puis la ressource auprès de nos adhérents, et on a appelé tout le monde, on a aussi fait un questionnaire rapidement en ligne pour que les gens puissent nous transmettre un peu quelques chiffres sur la situation. Au départ, on essayait notamment d'identifier le nombre de reports, d'annulations de concerts, etc. Et est-ce que les acteurs utilisent ou pas les dispositifs qui sont mis en place pour eux. Et puis maintenant, on est revenu sur quelque chose de plus proactif, c'est-à-dire en effet essayer d'anticiper la reprise de l'activité, comment ça peut se dérouler, qu'est-ce qui peut être mis en place, quelle forme, etc.
Au niveau de la veille et de ce qui était mis en place assez rapidement, donc vous êtes en lien à la fois avec les collectivités territoriales, donc la région et les services de l'État, on a pu voir des choses qui ont été annoncé assez rapidement. Par exemple, il y a un fonds d'urgence régional pour les associations culturelles. Dans quelle mesure ça a permis de venir en aide assez rapidement aux structures ?
Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. En effet, la région a mis en place un fonds pour les événements culturels, enfin les sportifs, et puis toute une panel de dispositifs de prêts et de soutien en trésorerie pour les entreprises. Sachant que le fonds d'urgence est toujours d'ailleurs pour les associations. Le fonds, il a le mérite d'exister. Tous les acteurs n'y ont pas fait appel. Ça dépend vraiment des situations de chaque projet, de chaque événement. Certains événements se sont pris la pandémie et la crise directement. Ils avaient lieu dans les jours qui allaient suivre, donc ils sont pris de plein pot. Ils avaient déjà engagé énormément de dépenses. Ils étaient déjà sur l'installation. Donc évidemment, ces événements-là, c'était intéressant pour eux de pouvoir faire appel à ce fonds. Ceux qui ont vu venir évidemment les annulations avec un peu plus de temps pour les préparer n'ont pas tous engagé leurs dépenses, donc n'ont pas forcément non plus eu la nécessité de faire appel au fonds. Mais ceci dit, c'était quand même un signe important renvoyé aux acteurs pour leur montrer que les collectivités, notamment la collectivité régionale, étaient attentives à ce qui se passait et réactives. D'autres collectivités, les départements, les villes, les principales villes aussi, ont rapidement aussi déclaré qu'ils verseraient les subventions aux porteurs de projets cette année, que les événements aient lieu ou pas, ce qui était important parce que l'événement n'ayant pas lieu, pour autant un certain nombre de dépenses ont quand même lieu, c'est-à-dire notamment tout le personnel permanent, enfin il y a des dépenses de flux ou de qui sont inhérentes et qui ont lieu toute l'année, les bureaux, etc., la location. Donc ce n'est pas parce que l'événement n'a pas lieu que les dépenses ne sont pas... une partie des dépenses ne sont pas forcément engagées, mais une partie sont engagées. Donc le fait que les financeurs principaux se soient et garantis qu'ils allaient verser les subventions, ça a été aussi quelque chose d'important pour le secteur. L'État a aussi mis en place des fonds, alors là pour le coup... plus générique et qui concerne toutes les structures, la possibilité de faire appel à l'activité partielle, le fonds de solidarité nationale. Tout ça, c'est des dispositifs que les acteurs ont relativement utilisés, plutôt bien utilisés.
Et au niveau de la circulation de l'information, donc vous avez ce rôle de veille et de transmission des informations. Est-ce que les structures avaient facilement accès à ces infos ou c'est notamment grâce à des intermédiaires comme vous que l'information puisse circuler? Est-ce que vous-même, pour vous, ça a été clair dès le début la mise en place de ces aides?
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour essayer de transmettre des informations. Il y a notamment, évidemment, les collectivités, l'État directement. Mais c'est vrai que les informations arrivent au compte-gouttes. Elles sont aussi diffusées par des intermédiaires, souvent les personnes de bonne volonté qui diffusent sur les mailing lists, les réseaux sociaux, ces informations-là. Et en fait, à un moment, je pense que les acteurs étaient perdus dans le flux de la communication et de l'information, avec une surréaction parfois à la moindre petite actualité. Et donc, ça a été compliqué pour eux de se retrouver là-dedans, et assez angoissant, assez stressant. Et donc, en effet, les intermédiaires comme nous, qui ont finalement un peu de recul, qui sont moins dans l'affectif, qui sont quand même malgré tout évidemment attachés au projet, mais un peu plus à distance, on temporise, et nous on a fait le choix d'envoyer les informations par exemple de façon hebdomadaire pour pas noyer les acteurs et puis pouvoir vérifier aussi comment les choses fonctionnaient, leur pertinence, etc. Et puis transférer ces informations aussi au bon moment, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de parler de, par exemple, l'intermittence. Tout le monde attendait des mesures sur l'intermittence, mais tant que la mesure n'était pas actée, annoncée, fallait-il continuer à en parler de façon incessante? Non, à partir du moment où elle a été annoncée, les gens ont été rassurés. Le problème, c'est qu'on a eu aussi beaucoup d'annonces, mais sans texte derrière. Par exemple, c'est le cas de l'intermittence. Aujourd'hui, il y a eu une annonce, année blanche pour intermittence. Donc, c'est très rassurant, parce que ça permet de se dire, pendant un an, les intermittents bénéficieront de leur statut. Mais par contre, comme le texte n'est pas écrit, il y a des subtilités qui ne sont pas actées noir sur blanc. Et donc, les principaux concernés ont quand même toujours un petit peu des doutes sur la façon dont ça va se concrétiser.
Et justement, dans ce cas de figure, on peut s'attendre à ce que des réponses arrivent relativement rapidement, ou le temps que le texte soit écrit, soit appliqué, il y a quand même encore un certain temps de latence?
Je pense que le texte va arriver rapidement, puisqu'il est passé notamment, il a été amendé au Sénat la semaine dernière, donc tous ces textes seront rapidement opposés, mais c'est vrai que rapidement aujourd'hui, pour les acteurs, c'est long, quoi. C'est-à-dire l'annonce du président de la République a eu lieu il y a plusieurs semaines, et c'est vrai que pour les acteurs, c'est long, tout ce temps, c'est long. Après, évidemment, c'est relatif, hein. Peut-être que le politique nous dira que les choses vont 10 fois plus vite qu'en temps normal, et que non, c'est pas long, mais pour les acteurs, c'est long. Et comme ce qui est compliqué dans cette crise, c'est l'incertitude, c'est se projeter, c'est pouvoir faire des choix, et donc poser des stratégies individuelles, collectives, d'entreprises, pour reprendre l'activité, se relancer. L'incertitude, ça veut dire avoir plusieurs scénarios en tête et donc travailler presque 2 fois plus pour pouvoir envisager tous les scénarios. Ça a été le cas notamment avant que les festivals aient la certitude de ne pas avoir lieu pendant l'été. Il y a eu une période assez longue où les festivals ne savaient pas si potentiellement ils auraient lieu ou s'ils n'auraient pas lieu. Quand je parle des festivals, là je parle vraiment des festivals qui accueillent plus de 5000 personnes par jour. Le fait qu'à un moment donné, ce soit sûr qu'il n'ait pas lieu avant tous ceux qui avaient lieu avant la fin du mois d'août, pour eux, ils avaient 3 scénarios, le report, l'annulation, le fait de se tenir mais dans une moindre, avec d'autres formats, d'autres coûts, des mesures de sécurité. Les gens, c'est des petites équipes qui mènent ces festivals, c'est des festivals indépendants qui sont portés par beaucoup de bénévoles, aussi des salariés, mais ils peuvent pas avoir 3 scénarios simultanément pendant des semaines à travailler, quoi.
Et là justement, la situation, elle en est où? Parce que ça a été redit que les festivals de moins de 5000 personnes pourraient avoir lieu, mais de la même manière, on est encore un peu dans le vague par rapport à ça, en tout cas, des informations que j'ai pu avoir.
Aujourd'hui, en effet, à nouveau, on est à nouveau dans le vague. Quelque part, pendant quelques semaines, on avait l'impression que rien n'aurait lieu, donc que de toute façon, quand il n'y a rien, au moins les choses, même si elles sont pas forcément, on peut pas se... Personne n'est content qu'il ne se passe rien, évidemment, mais au moins, c'est simple. là, le fait qu'en effet, il sera a priori possible d'organiser des choses, mais les conditions et les protocoles sanitaires seront tels que organiser des concerts, ce ne sera pas simple et ça aura probablement des surcoûts liés au fait de se procurer des équipements de protection individuelle, des EPI, ou même du gel hydroalcoolique, ou enfin, et puis évidemment des surcoûts liés notamment à la jauge, c'est-à-dire que si dans un lieu qui normalement peut accueillir 3 personnes par mètre carré, on ne peut accueillir qu'une personne tous les 4 mètres carrés, on divise par 12 la jauge d'un lieu normal avec son modèle économique. Et diviser la jauge de 12 pour des structures dont le modèle économique repose sur la billetterie, il est peu probable que le public accepte de payer 12 fois plus cher son billet, que ça crée quelque chose qui relève de l'impossibilité ou vraiment du challenge et du pari.
En termes d'impact, donc, il y a plusieurs études qui sont sorties. Récemment, vous avez repartagé une étude sur l'impact dû à l'annulation justement des festivals à l'échelle nationale. De manière générale, en fait, est-ce que au niveau des salles, au niveau des structures, la plupart vont quand même pouvoir se maintenir ou est-ce qu'il y a des risques de voir des structures, des salles, des festivals complètement disparaître ?
Des risques de voir des salles, des festivals disparaître, oui, probablement. Après, tous les acteurs ne sont quand même pas touchés de la même façon. C'est-à-dire que la dépendance à l'argent public, ou plutôt l'indépendance, là, va être un facteur de fragilité. C'est-à-dire que les structures qui ont une bonne assise de financement public ont leurs frais fixes, on va dire, de financer sur l'année. Et donc, si elles n'engagent pas les frais cette année, elles n'auront pas de pertes, donc elles survivront un an et elles pourront reprendre leur activité l'année prochaine. Les structures les plus indépendantes, celles qui ont très peu d'argent public, donc peut-être des petites salles de concert, des petits organisateurs, il n'y a rien de péjoratif quand je dis petit, mais des producteurs, eux, ils vont tenir sur leur trésorerie, mais à un moment donné, c'est l'activité qui génère leurs ressources et leur permettre de survivre. Donc, sans les aides, ça va être très compliqué. Alors, il y a des fonds d'urgence, il y a des fonds de relance, il y a des fonds d'urgence qui ont été mis en place, notamment celui du CNM. Il y a les fonds, en effet, de la région. Il y aura, à mon avis, d'autres fonds qui seront des fonds plutôt de relance et qui permettront, par l'activité, de soutenir aussi ces acteurs-là. Nous, on identifie en effet les structures privées, indépendantes, et les prestataires aussi, comme les structures les plus fragiles, avec les producteurs indépendants.
Oui, les prestataires, justement, c'est ceux qui ont été nommés un peu comme les oubliés culturels, qui sont les personnes indirectement liées aux événements, aux salles, et dont, a priori, donc on a moins entendu parler.
Alors oui, on en a entendu parler, mais finalement assez tard. Et leur difficulté à eux, c'est qu'ils ne sont pas directement identifiés comme étant du secteur culturel ou même du secteur touristique. Et donc, les mesures de soutien, finalement, qui les concernent, sont celles du droit commun, comme l'activité partielle ou le Fonds de solidarité nationale. Mais ces dispositifs ayant vocation à s'amoindrir avec le temps et la disparition de la pandémie, si ces acteurs-là sont pas clairement identifiés comme relevant du champ culturel ou même du tourisme, ils ne bénéficieront plus des aides au même titre que les acteurs culturels ou les acteurs du tourisme. Donc ils sont un peu, je m'explique par exemple, un imprimeur, même s'il imprime des documents que pour des acteurs culturels, il n'est pas reconnu comme lui-même étant un acteur culturel. Il a un code APE, qu'on appelle un code APE, qui est d'un autre secteur. Un média n'est pas forcément reconnu non plus comme un acteur culturel. Donc tous les prestataires, les indépendants, les attachés de presse, ils sont pas forcément reconnus de ce genre-là. Donc nous, on sait qu'en plus, c'est eux qui ont eu leur carnet de commandes qui s'est complètement taré, puisque finalement, quand je dis les festivals ou les organisateurs n'ont pas engagé leurs dépenses, bah, c'est vis-à-vis de ces prestataires notamment. Donc du coup, c'est eux aussi qui finalement pâtissent presque le plus de la crise. Donc il faut qu'on réussisse à trouver des formes de solidarité, ou à les faire reconnaître comme faisant en effet partie d'un champ qui a un caractère saisonnier aussi, parce que je pense que c'est important dans la crise actuelle, c'est-à-dire que le secteur a le gros de son activité sur les mois de printemps, été, et c'est donc ces mois-là qui disparaissent, donc c'est 80% des chiffres d'affaires qui disparaissent, quoi.
Et donc c'est justement sur des questions comme ça que vous travaillez en ce moment. Vous continuez toujours la veille d'information, mais alors sur quoi est-ce que vous vous dirigez en réflexion collective maintenant aussi?
La réflexion aujourd'hui, notamment là, on fait un travail de mise en valeur des oubliés de la culture. On va sortir des chiffres la semaine prochaine qui viennent d'une étude qu'on a faite sur une cinquantaine d'entre eux qui ont accepté de répondre à un questionnaire en Pays de la Loire. On va aussi travailler la question de la reprise de l'activité, notamment avec les lieux, les artistes, les producteurs, pour voir dans quelles conditions l'activité peut être reprise et voir les expériences que les uns et les autres mettent en place pour s'inspirer les uns des autres. On est aussi en train de travailler avec un fonds de dotation que nous avons créé il y a quelques années, qui s'appelle Mécène pour la musique, sur la mise en place d'appels à projets spécifiques pour en effet soutenir les acteurs les plus fragiles. Et ça, on le travaille à la fois avec les donateurs du fonds et un certain nombre de structures qui ont accepté de se solidariser, notamment des salles de concert de type scène de musique actuelle.
Pour la suite, parce que donc là on est sur le court, le moyen terme, mais je suppose que ça fait aussi réfléchir de manière un peu plus globale à l'avenir de la filière après la sortie de cette crise, mais aussi peut-être en prévision du fait que ça pourrait revenir l'hiver prochain ou être récurrent, ou des situations comme ça pourraient revenir. Est-ce que c'est des choses auxquelles on pense, même si on peut rien y faire?
Ben ouais, là c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on va probablement, dont on va parler trop aujourd'hui, parce que c'est évidemment ce que personne ne veut voir arriver. Mais en effet, peut-être ce caractère saisonnier de l'activité, nous rend par rapport à ce type de virus particulièrement fragile, si notamment lui-même était saisonnier. En effet, les acteurs n'ont pas non plus envie aujourd'hui organiser un concert de musique actuelle. C'est pas n'importe quel type d'événement, c'est un événement convivial, c'est un lieu de fête, un lieu un peu d'inhibition aussi. Même si on a évidemment, on fait en sorte que les organisateurs étant des organisateurs responsables, ils font en sorte que de limiter les risques liés justement à cette inhibition. Mais quand même, c'est quand même des lieux de liberté et ils ont c'est autant un moment social qu'un moment artistique, un concert de musique. Donc, ils sont pas prêts non plus à organiser tout dans n'importe quel, dans des conditions qui seraient trop contraintes, quoi. C'est-à-dire que les gens ne s'y retrouveraient pas. Donc, c'est difficile de se projeter dans un monde où tout le monde porterait un masque, il resterait à 2-3 mètres les uns des autres pour se garantir de pas propager un virus. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de réponse aujourd'hui, évidemment, mais en tout cas, c'est une vraie interrogation par rapport à un certain nombre d'acteurs. Certains repensent aussi, essaient d'imaginer des formes qui correspondent à des plus petites jauges, des façons de présenter leur travail différemment. C'est intéressant, évidemment, puisque c'est toujours aussi... les artistes ont toujours travaillé aussi avec les contraintes. Mais c'est vrai que dans la dimension plus sociale de l'événement, c'est... social et puis voilà, convivial, c'est quand même quelque chose de compliqué d'envisager la suite. Voilà.
Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que tu veux rajouter, un message à faire passer ou quelque chose à dire?
Peut-être dire en effet aux auditeurs que la musique sur un territoire comme les Pays de la Loire, c'est des milliers de petites assos, d'entreprises, des milliers d'emplois aussi. Et des initiatives qui existent parce que les gens ont envie qu'elles existent. Aujourd'hui, voilà, ce secteur est fragilisé, mais c'est aussi un endroit où quand les activités reprendront, c'est aussi un endroit où il y a des bénévoles, où c'est possible de s'investir, où c'est des lieux où on peut se solidariser les uns des autres. Et puis faut pas hésiter à montrer aussi à ces acteurs l'attachement que le public ou que les auditeurs peuvent avoir pour tout ce qu'ils composent, parce que c'est des gens qui ont plein de finalités éducatives, artistiques, qui se lancent avec passion dans ces métiers. Et aujourd'hui, ils sont dans l'incertitude et ils ont parfois du mal à se projeter. Donc tout acte de solidarité envers eux sera le bienvenu.
C'est noté et j'espère qu'on arrivera à sortir progressivement de tout ça. Merci beaucoup, Vianney, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Pas de rien, merci à vous.
Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste le temps d'écouter Envie de Stav, que vous connaissiez avant, officiant au sein du duo Rezinski. On écoute ça tout de suite.
soir j'ai pas envie de manger. J'ai juste envie de prendre l'air. Y'a plein de lumières colorées pour me tenter. J'ai qu'une envie, c'est boire et fumer le calumet. J'ai envie de plonger à chien, prendre un bain de minuit avec Billy. Les dîners entre amis, c'est chiant. J'ai pas envie de m'enterrer dans ta cuisine, ni dans ton restaurant. Je veux crapahuter sur le sein, et chahuter avec tous mes seins. Hein, c'est qu'il est plus beau, beau, ouais, c'est qu'il est plus zinzin.
Ce soir j'ai pas envie de manger, j'ai juste envie de grimper sur le bar. J'ai pas envie de me faire chier à regarder la télé. Tant pis si demain je me lève dans le mar.
J'suis dans la rue piétonne, j'suis dans ta résidence. Et je traîne dans le même bar depuis que j'ai 18 ans. C'est peut-être pour ça que je suis le plus vieux dans ce bar. Bien sûr qu'ici je suis le plus mauvais danseur, mais c'est toujours moi qui brûle le plancher.
Je donne envie de danser à ceux qui savent pas danser.
Et je traîne qu'avec des intermittents. On est les rois d'une ville de quelques mille habitants.
Je suis un trop gros poisson rouge qui s'est noyé dans une petite mare. Comme une goutte de tabasco dans un shoot de vodka, menthe, pastille, gifard.
Ce soir j'ai pas envie de manger. Sur le bar, j'ai pas envie de me faire chier à regarder la télé. Tant pis si demain je me lève dans le bar.
Il fait trop chaud, on est trop beau. Avec mes bros, on écrase tout. Même si c'est faux, c'est ce qui nous sauve. Ma vie s'en fout, c'est trop triste. Il fait trop chaud, on est trop beau. Avec mes bros, on écrase tout. Même si c'est faux, c'est ce qui nous sauve. Ma vie s'en fout, c'est trop triste. Toutes les semaines j'ai besoin d'un surplus d'émotions, madame. Pour me prouver que cette vie mérite quand même un peu d'attention. C'est comme ça que je trouve l'inspiration, madame. Y'a quand je me réveille triste que j'arrive à faire de jolies chansons.
Ce soir j'ai pas envie de manger, j'ai juste envie de grimper sur le bar. J'ai pas envie de me faire chier à regarder la télé. Tant pis si demain je me lève.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
De retour dans le pédalo sur Radio Campus Angers, on approche déjà de la fin de cette émission. Juste le temps d'écouter la chronique d'Iris qui nous parle avec humour des vacances à venir.
Comme ça ne dure pas toute l'année, faut se dépêcher d'en profiter, c'est les vacances.
Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Oh là là, cet été, ça promet, hein. Parce qu'après cette période difficile de confinement, on a à nouveau l'espoir de pouvoir partir en vacances cet été. Oui, quelle envie de s'évader, de déconcer, de décompresser. Pour moi, en tout cas, bon, hein, pas de vacances, pas d'ennui. Mais du coup, pour vous aider à surmonter ce casse-tête de comment organiser des vacances d'été cette année, je vous donne de suite quelques idées. It's summertime, baby! Pour commencer, comme principale destination, je vous propose donc la France. Sans même penser des fermetures des frontières et le risque de choper ce virus dans d'autres pays, il vaut mieux se contaminer à notre compatriote qu'aller chercher le virus ailleurs. L'industrie touristique, ils vont avoir besoin de vous. Oh mon Dieu, je vous vois déjà avec vos parasols, visières sur la tête, en train de faire la queue pour rentrer à la plage. Ou en train de bronzer avec le masque. Voyons-le un peu comme le bronzage de ski, mais à l'envers. Bien évidemment, on n'aura pas le choix non plus, vu que les low cost ne reviendront peut-être plus. Ça coûtera trop cher. No money, no funny. Toujours en France, mais destination Potos. Oui, c'est sûr, c'est une destination un peu spéciale. Mais on a tous envie de retrouver nos potes. Enfin, pas tous, mais certains quand même. Et la famille, qu'est-ce qu'on a marre après deux mois de 24 sur 24? Il faut bien aussi mettre à jour le calendrier des apéros et les soirées resto loupées, les petits week-ends de mai. Sûr qu'une semaine ou deux de vacances entre potes semblent être les bienvenus. Pour ceux qui ont peur, aller jusqu'à Marseille, proche du professeur Raoul. Avec son annonce sur YouTube, il fait rêver. Selon lui, d'ici quelques semaines, le virus disparaîtra à Marseille. Autant que le professeur jouit d'une véritable aura, pourquoi pas aller à la rencontre de son guru? Croyez-moi, les rêves peuvent devenir une réalité. Pour les plus aventuriers, comment être sûr d'être bien peinard? Dormir dans un phare, la mer pour seul horizon et un peu de solitude histoire de bien respecter les gestes barrières. C'est unique et magique. Moi j'en connais deux en France que vous pouvez louer pour dormir, le phare de Fatteville en Normandie et celui du Kerbel dans le Morbihan. À tenter, à tester. Pour les plus romantiques, des vacances dans une boule en pleine campagne en Isère. Oh. Faire l'amour sur les étoiles. Oh, on a un peu envie de se mettre dans une boule en ce moment, non? Bon, pas à la maison, en pleine campagne. Donc, rendez-vous dans une boule installée, dans une ferme isolée. Il y en a pour tous les goûts. Dans la plupart, même pas besoin d'aller faire ses courses. Tout est disponible sur place. Une expérience unique au rythme de la ferme et de ses animaux. Dieu a fait la campagne et l'homme a fait la ville. Amen. Si avec toutes mes suggestions, vous pensez ne pas être à l'abri, comme dernière destination, je vous propose de partir dans l'espace. A priori, là-haut, la question du coronavirus, c'est plutôt tranquille. Alors, pourquoi pas y passer ses vacances? Ok, ce sera pas pour tout de suite, parce que l'hôtel de l'espace ouvrira ses portes qu'en 2022. Mais bon, c'est pour bientôt. La station Aura pourra donc accueillir jusqu'à 6 personnes, donc deux membres de l'équipage, à 322 km de la Terre. Limitez vos contacts. La station propose aussi une suite privative pour 2 personnes, pour ceux qui veulent un peu d'intimité. Par contre, claustrophobes, s'abstenir, et ceux qui ont plus problèmes de transit aussi. Tout ça à un prix raisonnable de 7,7 millions de dollars par personne. Entre et slip de rechange inclus. Attention, pas de chèque vacances accepté, mais bon, comme a bien dit notre très cher président, quoi qu'il en coûte, attendons les nouvelles aides sociales. Chers auditeurs, je vous souhaite une très belle fin d'émission et bonne soirée à vous.
À l'hôtel de la plage, on mange très très mal. Quand je dis ça au patron, il me dit c'est normal.
C'est les vacances,
mon ami.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore à Vianney Marzin d'avoir répondu à nos questions. Merci à Iris pour sa chronique. Ce soir, c'est votre soirée dub et reggae avec Mélodub suivi de Bamboo Station. On se retrouve demain. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.